Bonsoir. Vous écoutez D'assonances en dissonance, votre émission mensuelle consacrée à la poésie, réalisée et animée par Béatrice Maché. Ce soir, je suis en compagnie de Thierry Perret-Marty, un poète franco-américain que vous avez déjà entendu lors de la dernière émission et avec qui je vais poursuivre notre entretien, car nous n'avions pas épuisé les questions au bout de la première heure enregistrée. En fait, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup à dire, tant sur votre travail de poète que sur ce qui fait votre vie entre France et États-Unis, entre jazz et poésie. Je rappelle, pour ceux qui ont suivi la première émission, et j'informe ceux qui prendraient la deuxième émission en route, que Thierry Perret-Marty, vous êtes auteur d'une douzaine de recueils écrits entre 1976 et 1992. Vous avez collaboré en tant que chroniqueur à la revue de poésie Décharge de 1986 à 1992. Vous avez émigré aux États-Unis en 1985 et vous êtes devenu journaliste de jazz à New York, Los Angeles puis Dallas. Journaliste pour des périodiques français et américains pendant plus de 30 ans. Vous avez notamment publié en 2009 Visiting Jazz, aux éditions Le Mot et le Reste. Vous avez été consultant pour iTunes, Apple Music, et vous partagez désormais votre temps entre Dallas au Texas et la Gironde, entre Lacano et Bordeaux. Vous êtes revenu à la poésie en 2015, et depuis 2015, vous avez fait paraître les derniers ouvrages dont je vais donner les titres. En 2018, aux éditions Gros Texte sortait L'absence intérieure. Aux éditions à Bordeaux, en 2019, sortait un livre intitulé Présence éveillée des fissures, suivi de Énonciation du vide. En 2022, dans la collection Fibre, aux éditions La tête en l'envers, paraissait Bout portant, avec des photos de Dimitris Gavalas. En 2022, également aux éditions Floem, et nous en avons parlé dans l'émission précédente, un ouvrage intitulé Terlingua, avec les encres de Jean-Marc Barrier. En 2023, aux éditions Douro, paraissait Des nuits en nous, nous n'avons plus, avec les dessins de Corinne Pagny. Et en 2024, sortait Un jour plus loin dans le jour, un ouvrage édité au Carnet du dessert de lune, avec une photo de Jean-Marc Barrier. Et puis, comme vous êtes venu en France pour quelques semaines, c'est un plaisir d'avoir pu vous rencontrer et profiter de ce passage en France. Donc, un grand merci à vous d'avoir pris le temps de vous arrêter pour les auditeurs de Radio Agora. Si vous le voulez bien, Thierry Perret-Marty, nous allons nous pencher sur un livre par vous écrit, intitulé « Un jour, plus loin dans le jour », paru aux éditions Les Carnets du dessert de lune. Je vais lire ce que la poète Muriel Compère de Marcy écrit à propos donc de votre livre, Thierry Perret-Marty, intitulé « Un jour, plus loin dans le jour ». La collection Lune de poche, créée en 2023, propose des recueils de poésie relativement courts, contemporains, dont l'écriture vient percuter des représentations plus classiques de la poésie. Ici, la contrainte formelle à laquelle s'est assigné le poète, donc vous, Thierry Perret-Marty. Pas plus de 32 mots ou 5 strophes par poème. Et donc, cette contrainte se tient dans l'espace symbolique délimité du confinement de la crise sanitaire provoquée par la pandémie du Covid-19. Le défi de faire circuler le souffle poétique depuis l'espace irrespirable, irrespiré, écrit le poète, en proposant un néologisme qui sonne avec inespéré. Donc l'espace irrespirable de l'emprisonnement commande à la topographie des poèmes aligné à droite, près de la charnière, sur le bord, près de chavirer, commande à la composition, aux mots épurés, seul, en l'occurrence au milieu des mouvements inutiles. Et ces mots épurés, seuls, et j'ouvre les guillemets, sont, pour vous, Thierry Pirémarty, peints de munitions. Je ferme les guillemets et je reprends le commentaire de Muriel Compère de Marcy. Défi réussi pour le poète qui, usant des mots en réserve dans cette situation existentielle et formelle, contraignante, parvient à insuffler à ses poèmes l'élan vital, préservé intact à la source de la ferveur de vivre. Donc un bel hommage. Et pour commencer, je vais vous demander d'en lire des extraits.
Tu n'arrives pas à t'oublier, à faire avec les morts les mots pour rien, jeter en mer la part non négligeable. À coup sûr sera repris ce qui fut accordé. Ce qui préfigure à la saisie l'attente du monde, tentative de solitude, dans sa mue énigmatique, au bord, à l'instant, sans concession, quand le jour se déploie, se replie. Rendu à tout possible, à l'interstice où se jeter, habité de mille inconnaissances, l'asphalte, nous, un pare-brise, ce qu'il reste de la vie palpitante et la nuit qui nous conjugue. Ne suis qu'un vent de face, renonçant, cinglant l'incurie, sans doute eût-il fallu s'atteindre au cœur l'intensité inexpulsable, l'homo, l'acharnement, un monde effondré que reconstruire. Aller ou prendre racine, ou grandir, à l'écart cherchant l'éclaboussure, souffle à ne plus savoir qu'en faire, le tison de la soif, soif d'un corps où prendre feu.
Merci beaucoup Thierry Pirémarty. Donc je rappelle que les extraits que vous lisiez sont inclus dans le livre dont le titre est « Un jour plus loin dans le jour ». Je vais vous lire ce que le poète et critique luxembourgeois Florent Toniello écrit à propos donc du livre de Thierry Pirémarty paru aux éditions du Quartier du Dessert de Lune. Un jour plus loin dans le jour revêt par moments un costume mystique qu'il use du jeu poétique classique dans sa multiplicité de personnalités ou qu'il s'adresse à un « tu » inconnu, les deux réunis parfois dans un « nous » qui laisse penser que Thierry opère la fusion de ses sujets. Il s'embarque, et j'ouvre les guillemets, à l'affût des foudres, pour retourner aux sources d'un temps mort restitué. Il fouine dans le réel et dans le langage pour épuiser la matière de la sublimation des choses. Nostalgique lorsqu'il entend, et j'ouvre encore les guillemets, donner sang et yeux pour la vie d'avant, introuvable, fermez les guillemets. Plutôt construire, retiendra-t-on. Une poésie de l'esprit qui préfère bâtir plutôt que dénigrer, qui ne refuse pas de s'adresser à l'intellect tout en caressant la matérialité incontournable des choses. Voilà, j'ai trouvé la critique juste, mais ça ne m'étonne pas de Florent Toniello, que nous saluons au passage. Dans et à travers ce que vous avez lu, les extraits de votre livre, Thierry Pirémarty, on a quand même senti un style épuré, avec des accents comme mélancoliques. Pour moi, non pas l'énigme, mais enfin, ce qui pose question et qui est intriguant, c'est plutôt le titre. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre derrière ce titre ? Un jour plus loin dans le jour.
Je pense que c'est un titre optimiste. Et c'est le jour que l'on voit poindre dans le jour, que c'est le jour qui arrive. Donc vous avez mentionné qu'effectivement c'est écrit pendant l'époque du Covid et l'idée c'était justement de faire de cette époque quelque chose. Il ne fallait pas vraiment tomber dans ce que nous tombions, enfin, c'était vraiment horrible. Le confinement, je ne veux pas rappeler tout ça à tout le monde. Donc c'est un titre positif, c'est un titre que j'ai trouvé, qui n'est pas du tout de moi, que j'ai trouvé dans un poème de Philippe MacLeod, Et ces mots m'ont vraiment choqué dans le bon sens. C'est-à-dire que quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais oui, ça avait un sens. C'était tout à fait sensé pour moi, cet espoir. Lui, il y voyait certainement quelque chose de lié à la religion. Mais pour moi, c'est ce jour qu'il fallait croire, il fallait vraiment l'attendre.
Alors, il y a un autre livre dont j'aimerais qu'on parle un petit peu. Le titre, c'est « Présence éveillée des fissures », suivi de « Énonciation du vide », un livre paru aux éditions à Bordeaux. Et le poète Jacques Josse, que nous saluons en toute amitié, a écrit une postface à ce livre. Et il souligne ceci. Un chemin poétique obstiné vers la difficile acceptation de l'impermanence. Alors le mot impermanence, pour moi, il est très connoté. Et je me demande si vous êtes imprégné de spiritualité orientale, de zen, de bouddhisme tibétain, par exemple. Et suivez-vous une pratique de méditation ?
Imprégné, peut-être un peu, bien sûr. Je ne pratique pas la méditation, je réfléchis, je pense, comme tout le monde. Mais c'est vrai, il y a des éléments de ci, de là, tirés de la numérologie, par exemple. Il y a des choses qui viennent du tarot, ou de bien des choses, il n'y a pas que ça. Mais ce n'est pas très, très important, ce sont que des étincelles, je dirais. Et puis, ce n'est pas forcément mon but, d'ailleurs, de parsemer mes textes d'éléments divers, de truffer ces poèmes de repères. Mais c'est vrai, il y a des fois des choses qui interviennent, qui sont peut-être plus fortes que moi. Et comme je le disais tout à l'heure, je crois aux signes. Je pense que j'ai été témoin de choses que la science n'explique pas et qui feraient sourire à n'importe quel de mes amis scientifiques, il y en a. Et pourtant, j'ai vu ce que j'ai vu. Et je crois qu'il y a un autre monde qui existe, que l'on ne comprend pas, qui n'est pas forcément très intéressant d'ailleurs. Mais je ne pense pas que ce que nous voyons au jour le jour, cette table, ce micro, ce sont des éléments. Il y a des choses aussi que l'on ne voit pas, mais qui existent. Et peut-être même dans l'endroit où nous nous trouvons, qui sait. Ce n'est pas tout à fait ésotérique et ce n'est pas bouddhiste. Bien sûr, le bouddhisme m'a intéressé à une époque, le tantrisme aussi, plein de choses comme ça, par lesquelles on passe. C'est la preuve qu'il faut être ouvert, je pense. Il ne faut pas en rester à l'éducation que l'on a reçue et la religion que l'on a essayé de nous apprendre. Il y a plein de choses. Et par exemple, je sais qu'il y a un terrain qui vous intéresse énormément, c'est celui des Amérindiens et leurs croyances et la manière dont ils se placent dans le cosmos. C'est ce qu'on ressent d'ailleurs quand on est dans le désert. C'est qu'on est obligé d'embrasser tout, autant les étoiles que le cactus sur lequel vous ne voulez pas marcher. On prend conscience d'un tout, d'un univers. On est en relation, on est relié à quelque chose de plus grand. Et ça, le monde moderne, la société américaine, je la vis 24 heures sur 24, elle ne vous permet pas d'accéder à ces choses-là. Parce que vous avez votre téléphone dans votre poche, vous avez la télévision, vous avez bien les choses. On est dans le matériel le plus souvent et on n'a pas, on n'est pas relié à quelque chose qui nous dépasse vraiment. La seule chose qui nous dépasse, c'est le malheur, la maladie, les choses comme ça. Et on se raccroche, on essaie de se raccrocher à quelque chose pour s'en sortir. Mais on ne prend pas conscience des choses qui sont beaucoup plus loin de soi. Et j'essaye de faire cet effort. Et c'est intéressant, à mon sens, parce que le poème est dans le cosmos. Le poème que vous essayez, que le poète essaye d'atteindre, il est quelque part, il existe, il faut qu'il se dévoile, il faut qu'il le trouve. Il y a une clé. Moi, je dis souvent, c'est on ouvre des portes. Et des fois, comme je disais tout à l'heure, la porte, elle s'ouvre pas, on peut cogner. Donc, on ouvre des portes, et c'est une sorte de labyrinthe, et on recolle les morceaux. Et dans la technique d'écriture que je fais, c'est bien des mots, de temps en temps, qui sont jetés sur la feuille, enfin, ou sur l'écran. Et en fait, il existe un secret pour les relier, ces mots-là. Et en fait, c'est là où il y a quelque chose qui est dit et qui est révélé à l'auteur, qui m'est révélé. Mais je ne le sais pas forcément, moi, au début. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui se cache et je veux trouver. Parce qu'il y a des choses que je crée moi-même et il y a peut-être des choses qui me sont indiquées. C'est pas par hasard qu'il y a telle idée qui surgit. Je disais que c'est un signe. Je pense qu'il y a des choses qui viennent vraiment pas forcément de l'auteur. Enfin, et c'est intéressant aussi pour moi parce que lorsque je suis revenu à l'écriture, avec ce premier livre que j'ai fait chez aux éditions Gros Texte, ça a été comme un robinet qu'on ouvre et qu'on ne pouvait pas fermer. Je ne maîtrisais pas, je crois que le livre fait 140 poèmes et qui sont assez longs. Et d'ailleurs, je suis revenu à l'écriture avec un texte qui était assez volumineux. Et j'en ai pris peur de cette expression parce que je n'arrivais pas à la canaliser. Et donc, je me suis d'ailleurs escrimé à canaliser tout ça depuis ce texte de 2018. Pour moi, quand on va chercher le poème, c'est un jeu de Colin Maillard. C'est pour ça que je vous parlais de la lucidité. Il faut être absolument lucide. Pour moi, c'est essentiel. Et j'aime bien maîtriser les choses, j'aime bien comprendre, j'aime bien être rassuré lorsque je comprends les choses. Mais je veux être aussi être dans l'accueillance, comme je dis. Je veux être aussi ouvert aux choses extérieures. Voilà ce que je peux en dire.
Ce que j'entends, moi, derrière tout ce que vous venez de dire, pour relier avec le monde amérindien, donc en fait, le poème, ce serait un peu une quête de vision aussi. Et en disant cela, je souligne ce qui pourrait apparaître comme l'aspect mystique de votre poésie, Thierry Perret-Marty. Nous parlions d'un livre dont le titre est « Présence éveillée des fissures », suivi de « Énonciation du vide ». Et dans ce livre, on y évoque la perte, le deuil, l'irréparable, l'inconsolable. Dans cet ouvrage, encore, je dirais, le mot « marche » que nous avons évoqué, que nous avons commenté dans la première émission, prend tout son sens. Et nous disions à propos de ce mot qu'il sous-entend un mouvement, et ce mouvement est une caractéristique de la poésie même. Le livre permet un cheminement qui va de l'expression de la douleur à une ouverture qui est l'au-delà du chagrin, et l'au-delà du chagrin personnel pour prendre conscience d'une forme d'immuabilité, sinon d'éternité.
C'est aussi la perte, ça peut être la perte de l'amour aussi. C'est pas que la perte, le deuil. Bien sûr, dans ce texte, il y a quelqu'un à qui je fais référence, qui est décédé. Mais l'amour aussi était très important. Et on a tous perdu l'amour un jour ou l'autre. C'est en gros la même chose, en fait, quand on y réfléchit bien. Donc c'est tout ça qui est mêlé. Le texte, il n'est pas uniquement, je pense, orienté vers le deuil.
Perd-on vraiment l'amour? L'amour de quelqu'un, peut-être, mais l'amour...
Je crois qu'il y a des périodes où on ne sait pas aimer, on a perdu ce que c'est, mais on ne peut pas se forcer à aimer. Donc on perd l'amour, oui, bien sûr. Mais ça aussi, c'est très important pour moi. Ça revient très souvent, je pense, dans tous mes textes, dans tous ces livres. Et ce n'est pas de la naïveté, je crois qu'il n'y a que l'amour qui nous sauvera. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ce qui manque, c'est qu'il y a une incompréhension, voilà. Quand les peuples se battent entre eux, alors que ça devrait être beaucoup plus simple que ça, en fait. On perd cet amour, on ne sait même pas le donner, on ne sait pas le recevoir, on ne comprend plus. Et je crois que lorsque l'on aura pris conscience de ces choses-là, on ne pourra aller que vers un meilleur. Mais on ne sait pas le faire, enfin, l'histoire nous prouve qu'on n'a jamais pu y arriver. Et là, je ne parle pas de la parole de Jésus, je me situe tout à fait en dehors de tout ça, mais je crois que l'amour, il n'y a que l'amour qui nous sauvera. Et l'amour de soi comme l'amour de son prochain, en couple ou l'amour, avec un grand A.
Vous écoutez D'assonances en dissonance, vous écoutez le poète Thierry Perret-Marty, il est mon invité ce soir. Thierry Perret-Marty, quel regard portez-vous sur la poésie francophone actuelle, comparé à ce que vous connaissez de la poésie américaine actuelle? Et d'ailleurs, entre parenthèses, quand vous êtes aux États-Unis, on vous considère comme un poète français, comme un poète américain, comme un journaliste? En tout cas, donc, pour ce qui est de la poésie, est-ce que vous voyez une ressemblance ou bien des différences entre la poésie francophone et l'américaine? Est-ce qu'il y a des auteurs américains que vous connaissez, que vous fréquentez et dont vous suivez le travail? Des auteurs contemporains, bien sûr.
Non, en fait, je lis que très rarement de la poésie américaine. Justement parce que vraiment trop attaché en ce moment pour... avec la langue française, il y a des années, je lisais Frank O'Hara, plein de gens, enfin, bien sûr, tous les gens de la Beat Generation, mais je n'y lis plus. Hein. Je y retournerai un jour ou l'autre, et bon, il y a plein d'auteurs qui sortent, et j'ai du retard, c'est sûr, mais je ne suis pas dans la poésie. Et d'ailleurs, on ne me considère pas comme un poète, ni comme un journaliste, et pour répondre à votre question, journaliste, c'est une activité que je ne pratique plus. Poète, les gens ne le savent pas et ne me lisent pas, parce que comme j'écris en français, étant aux États-Unis, il y a peu de gens qui sont capables de lire le français, et même à la limite de s'intéresser à la poésie. Donc ni l'un ni l'autre. Mais c'est une question qui me rappelle une question que j'ai eu l'occasion de déjeuner avec Allen Ginsberg, et c'est la première question qu'il m'a posée. Il m'a dit, alors comment se comporte la poésie française, qu'en est-il aujourd'hui? Et il voulait bien sûr comparer avec la poésie américaine. Et j'ai été incapable de le lui dire, d'abord parce que je ne savais pas trop ce qui se passait en poésie française à l'époque, puisque là aussi j'étais de l'autre côté. Mais ce qui m'ennuie un peu dans la poésie américaine, c'est le côté récitatif. C'est le côté très narratif. Je ne sais plus qui disait, lorsque l'on en reste au récit, c'est qu'on n'est pas sorti de soi. Ça explique vraiment ce que je ne veux pas faire. Et je crois qu'on aura compris. Pour aller à la ligne, si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui vont à la ligne et qui pensent écrire un poème, mais ils n'ont pas besoin d'aller à la ligne. Ils peuvent faire de la prose ou faire toute autre chose. Mais le poème demande pour moi autre chose. Je vois moins cet effort dans la poésie américaine, en tout cas à une époque, peut-être plus maintenant, je ne sais pas. Hein, mais je ne m'en suis pas trop intéressé, ou disons que je m'en suis un peu désintéressé, justement à cause de ce côté-là, qui pour moi n'était pas vraiment d'une valeur primordiale. Nous, on est passé par des gens comme Duboucher ou plein de gens qui ont su écrire sur la page, mais même Apollinaire depuis le début. Donc, on a tout ce passé. C'est une question aussi difficile, mais elle est très forte, en tout cas, la poésie aux États-Unis. Elle est très présente. J'ai l'impression, là aussi, c'est peut-être une fausse impression, mais il me semble qu'elle est beaucoup plus présente aux États-Unis qu'elle l'est en France, dans un certain sens. Et elle est dans les journaux, elle est dans le New Yorker, elle est dans des mensuels. Bien sûr, elle est parlée, il y a beaucoup de poésie parlée, enfin je veux dire récitée, il y a beaucoup de slam, beaucoup de choses comme ça, comme on trouve en France, bien évidemment, mais je trouve que c'est pas le même stigmate, disons, qu'on a avec la poésie. Aux États-Unis, c'est tout autre chose. Et peut-être d'ailleurs, c'est la même chose dans la culture amérindienne, enfin, la poésie est très présente dans la vie. Enfin, en tout cas, je me promets de relire, c'est sûr, je me promets de relire certaines personnes, de lire les nouveaux, mais pour l'instant, je suis plus intéressé par ce qui se fait en France, oui et non, en fait. Parce que vous savez, on a toujours le nez dans le guidon, hein. Et moi, je vois des choses que j'aime bien, je trouve qui sont très bien écrites, mais qui ne me concernent pas vraiment dans la poésie française, parce que les gens, pour moi, des fois, font ce que je m'interdis d'écrire. Et je pense que tout le monde devrait avoir l'honnêteté de dire ça. Et je reconnais, vous savez, quand j'étais critique, je me suis exercé à chroniquer et à mettre en valeur des choses que je n'appréciais pas forcément vraiment, mais on ne le savait pas, on ne le lisait pas dans mes chroniques. Et parce qu'on avait les outils pour faire la même. Et donc je pense que je suis capable de décortiquer, de voir certaines écritures et de trouver leur valeur, mais elles ne me concernent pas vraiment. Pour moi, c'est un travail solitaire, on est l'armée de l'ombre, je dis souvent. Les poètes, on est des clandestins. Et il n'y a rien de mal à ça. Parce que la poésie, en fait, elle n'a pas de valeur, elle n'est pas là pour plaire à tout le monde. Elle n'est pas là pour s'imposer à tout le monde entier. Elle n'aurait pas de lieu d'exister si elle était comme ça. Elle existe dans le souterrain, elle existe dans ce qui est caché. Enfin, le poète la met, je ne veux pas qu'on fasse de confusion. Un arbre n'est pas poétique, un bouquet de fleurs n'est pas poétique, c'est le poète qui va faire ça. C'est cette idée de faire, c'est l'idée de Reverdy d'ailleurs.
Puisque vous citez le nom de Reverdy, Thierry, je vais lire une citation à nos auditeurs. Donc, selon Reverdy, et j'ouvre les guillemets, « La poésie n'est pas dans les choses à la manière où la couleur et l'odeur sont dans la rose et en émanent. Elle est dans l'homme uniquement, et c'est lui qui en charge les choses en s'en servant pour exprimer. La faculté majeure du poète est de discerner dans les choses les rapports justes mais non évidents qui, dans un rapprochement violent, seront susceptibles de produire, par un accord imprévu, une émotion que le spectacle des choses elles-mêmes serait incapable de nous donner. » Voilà pour éclairer ce que vous évoquiez comme étant l'idée de la poésie selon Reverdy. Je ferme la parenthèse et revenons à votre sentiment sur vos lectures de poètes contemporains. Vous disiez que vous aviez la tête dans le guidon, Thierry Perret-Marty.
Quand je dis le nez dans le guidon, c'est une image, mais on travaille, on croit en ses écrits en premier lieu. On aime, il faut le dire. C'est difficile de lire quelqu'un et de tomber en amour complètement avec une écriture qui n'est pas la vôtre. C'est pas facile. Dans mes amis poètes, j'adore leur écriture. Je ne veux pas vous donner des noms, mais il y a des gens avec qui je suis ami, c'est parce que je reconnais que ce qu'ils écrivent. Et là, je vois, là, je sais. C'est en accord avec le personnage qu'il écrit, d'ailleurs. En règle générale, ce que je lis est tout à fait à l'image du poète. Personne ne triche. On ne peut pas tricher avec la poésie, ce n'est pas possible. Ce qui est écrit, je dirais au moins à 80%, c'est le reflet du poète. Ces 20%, c'est ce qui vient d'ailleurs, c'est la part d'inconnu.
Bon, là, on s'est un petit peu éloigné, entre guillemets, de cette comparaison entre la poésie américaine et la poésie française. Mais pour ce que moi, j'en perçois, il y a quand même quelques auteurs aux États-Unis qui valent la peine, comme Ariel Reznikov, que je trouve excellent, qui mêle le langage yiddish, le langage anglais et aussi de l'hébreu, des références à l'hébreu. Il fait preuve d'une ironie et d'une intelligence remarquables. Un autre nom que je citerai, c'est celui de Lely Long Soldier, qui est plasticienne et poète. Sioux Lakota, sa famille vit sur la réserve de Pine Ridge dans le South Dakota, donc Dakota du Sud. Le principe de son écriture est de remettre en cause la langue anglaise en la questionnant, en la faisant exploser avec la langue Lakota. Donc elle infiltre la langue anglaise des principes et de la pensée Lakota. C'est d'une intelligence redoutable, c'est brillant, c'est implacable et ça nous offre vraiment une perspective et un moyen de comprendre comment les choses se vivent, se pensent, se ressentent et quel est le rapport au monde de son peuple. Puisqu'on est un petit peu aux États-Unis là, pour le moment, est-ce que vous ressentez aux USA, comme on le ressent en France, et de plus en plus grandissante, cette forme de mépris pour les artistes et les intellectuels? Et si je veux poser cette question, c'est bien sûr en regard à la politique du président Trump, qui affecte les milieux artistiques et culturels aux USA, avec l'interdiction de certains mots, même carrément. Est-ce que vous sentez, vous, ce changement d'atmosphère générale dans ce pays, bien que le Texas, comme vous l'avez dit, est un pays à l'intérieur du pays?
C'est une remarque tout à fait vraie, on ne peut pas la nier. Et je crois que J.D. Vance a dit le problème, ce sont les professeurs. Ça veut tout dire. C'est-à-dire tous les spécialistes, tous les gens qui ont un quelconque savoir pointu, et il faut les laisser de côté. Mais vous savez, ça avait commencé il y a bien longtemps. Ça a commencé, je pense, avec Ronald Reagan. Ça s'est accentué avec W. Là, maintenant, les choses sont claires, elles sont mises sur la table. On n'a plus besoin de gens qui savent quelque chose. D'ailleurs, quand vous regardez la composition du gouvernement américain, il n'y a que des amateurs. Et entre parenthèses, ce que je trouve relativement intéressant, c'est que on a de la chance qu'on a affaire à des amateurs, parce que si on avait des gens pointus dans leur domaine, je pense que le résultat serait pire. Là, on a justement des gens qui sont des rigolos. Mais c'est tout à fait vrai, on est dans l'obscurantisme, et c'est pas fini. Je crois qu'on est tombé dans une sorte de grand autoritarisme, et je dirais de pré-fascisme en ce moment. Et il faut être bien sûr vigilant, mais ce que l'on veut, ce sont des gens qui sont malléables et qui ne savent pas de quoi ils parlent. Le pouvoir aux États-Unis en ce moment, c'est l'affaire de quelques personnes. Et c'est tout. Et le reste est de la tech. C'est-à-dire les grandes industries et la finance, etc. C'est ça qui a aidé Trump à être élu une deuxième fois. Comme je disais tout à l'heure, on en reviendra. Il y a des gens d'une extrême valeur aux États-Unis, dans beaucoup de domaines. La littérature, bien évidemment, mais dans la science, dans le monde médical. Et c'est pour ça que je reste optimiste. Mais c'est vrai, vous avez raison de le souligner. Je pense qu'il faut regarder les États-Unis pour voir où il ne faut pas aller. Et on a en France une démarche pas similaire, mais en tout cas, elle y ressemble par certains aspects. Elle fait peur. On n'est pas les seuls, ni en France ni aux États-Unis. On voit ce qui se passe. On est dans le populisme le plus acharné. Et je n'ai pas peur de dire obscurantisme.
Voilà, lisez Gramsci. Ou bien, c'est pas de la poésie, mais bon. Quoique, pourquoi pas, et pour en finir avec le fascisme. Alors, il y a une constante dans cette émission qui est de demander à mon invité de choisir un morceau de musique, une chanson, à faire découvrir et partager avec les auditeurs. Ça peut être quelque chose qui vous a accompagné pendant l'écriture, ou bien qui a une valeur de symbole, qui est comme un jalon sur votre parcours de vie, ou bien tout simplement parce que c'est l'œuvre d'un artiste que vous admirez. Et donc, quel serait votre choix et pourquoi, Thierry Péri-Marty?
En fait, je pense que c'est une question qui tombe à pic parce que je pensais à, pour rester dans le jazz, il n'y a pas que le jazz qui m'intéresse, bien entendu, mais pour rester dans le jazz, je pense à un morceau du compositeur et du saxophoniste ténor, Charles Lloyd. C'est un morceau qui s'appelle, c'est un requiem. Et c'est une déclaration d'amour, en fait. Le requiem a été écrit pour Billie Holiday. Charles Lloyd était amoureux de la chanteuse lorsqu'il avait 12 ans. C'est ce qu'il m'a expliqué un jour. Et il a écrit ce requiem pour elle. Et je n'ai jamais pu jouer autre chose que l'amour. Ça, c'est une chose certaine.
Eh bien, nous allons donc écouter ce requiem écrit pour Billie Holiday de Charles Lloyd. Thank you. Vous venez d'entendre Requiem, un extrait de Requiem, qui a été écrit pour Billie Holiday, composé par Charles Lloyd, un saxophoniste ténor, qui pour fêter ses 80 ans tout neuf a enregistré au Théâtre L'Obéro à Santa Barbara en Californie ce morceau Requiem, comme pour anticiper un petit peu la mort qui effectivement à 80 ans approche, quelque chose de, dans le geste qui est à la fois ironique et touchant. Les participants, les musiciens qui accompagnent Charles Lloyd sont Eric Harland à la batterie, Ruben Rogers à la contrebasse, Julian Lage à la guitare et Gerald Clayton au piano. Et c'était le choix musical du poète franco-américain Thierry Perry-Marty qui nous a fait l'honneur de répondre à nos questions, de prendre le temps d'être avec nous ce soir sur Radio Agora. Et vous écoutez D'assonances en dissonance. Je vais lire à dessein, et l'on comprendra tout à l'heure pourquoi. Je vais lire donc la rubrique « La recension » de Jacques Morin, paru dans Décharge, en mars 2022. Et c'est une recension du livre, de votre livre, Thierry Perry-Marty, « Bout portant », paru à la tête à l'envers. Alors, d'abord, c'est pour saluer le travail de Jean-Marc Barrier dans cette collection Fibre. Un mot du format, papier épais, 35 sur 42, plié savamment, découpé pour obtenir un accordéon d'une photo, grand format d'un côté et de 8 pages de l'autre, avec en une autre photo, tout aussi épatante que l'autre, du grec Dimitris Gavalas. On y voit un trompettiste assis sur une valise qui rappelle l'autre passion de Thierry Perry-Marty, mis à part la poésie évidemment, et il s'agit de la musique et en particulier du jazz. Et donc Jacques Morin dit ceci, au final, le poème se déroule sur 6 pages où l'auteur fait montre surtout d'un style briqué. Rares sont aujourd'hui ceux qui utilisent passé simple et passé du subjonctif et jouent de l'inversion en rafale. D'une page à l'autre, on pourrait jumeler les mots qui résonnent comme abyss et abîme, ou les expressions qui s'opposent ou se voisinent comme puterie de feuilles au sol et comme feuille d'arbre tombe, ou bien désir dardé, en dedans et chagrin tari, que nous expiâmes. Mais nous garderons pour clore cet envoi. Pas à pas, sous la morsure du poème, nous choisissions l'aube pour aimer. Donc là encore, quelqu'un qui souligne le travail que vous faites dans la langue avec les mots pour écrire votre poésie. Et je veux en arriver à la question suivante. Vous nous avez expliqué, Thierry Perry-Marty, que vous visiez la concision, la densité. La poésie n'a rien du bavardage, et vous faites cet effort à la fois de lucidité et de précision quand vous écrivez, que vous vous servez de la langue, en l'occurrence française, pour mettre en mouvement le lecteur vers un lieu intime de poésie. Est-ce qu'à son tour, votre lecteur doit faire un effort quand il vous lit ou quand il vous écoute?
Je suis conscient que je demande au lecteur de faire un effort. I'm demanding, je dirais. C'est vrai, je reconnais. Sinon, il faut lire le journal. Si vous ne voulez pas vous poser trop de questions sur un mot, je n'emploie pas des mots où il faut sortir le dictionnaire, ce n'est pas ça. Mais je crois que même dans la syntaxe, il y a un effort de lecture, il y a un effort de... Alors, comprendre le poème, bien sûr, on peut en parler pendant 3 heures, ce que ça veut dire. Ça ne m'intéresse plus d'ailleurs que le poème soit compris ou pas. Moi-même, il y a des fois, je suis très surpris par ce que j'écris. Ça me révèle quelque chose. Je me dis, mais c'est... En fait, c'était ça, justement, ce qui se cachait derrière le poème, ce que le poème me révèle. Je ne le savais pas au début. Donc, toute cette idée de compréhension et autres, on peut en faire... une dissertation, si on veut, mais que j'ai pas de notes. Hein, je travaille pas avec un dictionnaire. Il y a des mots comme ça qui reviennent. C'est des mots qui sont le résultat de lectures mais antérieures. Je suis un fan, je voudrais pas dire ce mot, mais je me repenche souvent. On parlait de Gérard de Nerval, qui est un pour moi l'écrivain le plus absolu, le poète le plus, j'ai même pas de mots pour qualifier son travail. Et l'homme est aussi passionnant. Et d'ailleurs, je pourrais dire quelque chose qui risque de choquer, mais j'ai l'impression qu'on s'est connus dans une vie antérieure, je pourrais dire. Avec, ouais. Je crois que, et via le journalisme, et je suis sûr de, en tout cas, je l'étais à une époque, sûr que, parce que ces écrits, quand même, je dis pas que j'ai pensé les avoir lus, déjà, mais il y avait une révélation pour moi. Donc, quand on lit cette langue, comme elle est écrite, à l'époque, et comme quand on la lit aujourd'hui, mais c'est absolument renversant, hein. C'est comme si, en musique, vous jouiez dans les 12 tonalités. Au lieu de prendre une tonalité de départ et rester en mi bémol, par exemple, pendant 10 minutes. Là, il y a toute autre chose. Et c'est ça qui m'intéresse. Dans ce que j'ai écrit, par exemple, dans un texte, il peut y avoir 4 ou 5 temps différents. On est au plus que parfait. On peut être au futur dans la ligne d'après, ou au passé simple. Le passé simple ne s'emploie plus, mais même à l'écrit. Et ça devient incroyable. On a 14 temps, on les utilise plus. Alors qu'en anglais, je pense qu'il y a le même mouvement depuis longtemps aussi. Donc, je crois que si on veut viser une richesse d'expression, il faut absolument employer tout l'arsenal que l'on a.
Eh bien, pour illustrer la façon dont vous utilisez l'arsenal du vocabulaire et de la langue, je vais lire quelques extraits pris au hasard d'un manuscrit intitulé « Feu muet ». Éloigné de mes propres traces, dévalé, hors vue, dénivelé auprès des fleurs qui hurlent, mémoire neuve infouillée, disant la jonchée, l'opacité qui se dissipe, le retour aux sources, au lait maternant. J'éveille la glaise. Jour sécrété du terreau céleste, du bestiaire, n'ayant plus que les mots sur les os. Quoi s'ouvrit dans l'épaisseur du temps? Dans quelle énigme vivons-nous? Et quelle lueur vint à s'éteindre? Tu seras ma terre inconnue, l'incise portée, perméable au point de côté, parole renouvelée dans la lumière neuve. Donne-moi l'oracle amâché et ce dit innumérable qui se fait attendre. Parfois, seule lumière grièvement celle entr'ouverte débordée au plus fort du matin te cherche. Toi seul, penses-tu, aucun autre criblé de ce jour en attente, qui déjà scintille, qui pointille, glaçure au sommet du silence, et tu respires une soif, un tire d'aile. Comme à l'oubli du feu gravé, le temps du ciel te fait rêver d'une étamine nouvelle, un signet pour se trouver. Temps d'arrière-fond, l'ornière du souvenir, le vent sais-tu ne sèche pas toutes les plaies. Vue imprenable lorsque tout fut pris, qui donc fit le vide autour de nous? Cherches-tu le lieu, ou peut-être réside ce qui nous sauverait? Vissé à quel paysage, ici souviens-toi de l'eau, à la merci nous sommes. D'un seul tenant désormais vivre, revenu au centre, au cri urgent de l'arbre malgré l'amenuisement, la dépouille du monde. Mains incultes, récusées, ne répondons plus de rien. Mains incultes, récusées, ne répondons dans plus de rien. Au dernier carré, nous y voilà, élançant ce qui pourrait naître dans l'écart in extremis de ce qui nous tisse encore. Ce n'est pas ici. L'air a fui, écroulé, s'est tu. Et la route illisible, illimitée, l'étendue auquel on crut, au vent avif aussi, à ce qui reviendrait, plus de souffle dans la trachée, le mort qu'il faut cracher. Je te sais de l'autre côté, mots éblouis, creusés sourdement. Par ici dans la tranchée où rien n'est enfoui encore, qui n'aura rien, qui ne dira rien de vrai, où tout sera nu, à vivre. Il s'avère qu'un geste seul suffirait, une intrusion sacrifiée, un retrait réplique à tout, pétri d'aucune réponse, au-delà de tout corps. Ce monde nous tombe, et là, viendrait de ton profond mystère la réalité possible de cet arbre, ta main qui fait semblant. Incertaines heures, murées dans leur élocution, leur césure, bientôt la force du sommeil qui dérobe, nous sommes une ébauche discontinue, un enjeu au corps à corps, peu à dire, à la jointure. Voilà, j'ai lu donc des extraits de ce manuscrit intitulé « Feu muet ». Il s'agit d'un ouvrage inédit à ce jour, dont vous êtes l'auteur, Thierry Perret-Marty. Nous allons poursuivre en écoutant la voix de Jean-Marc Barillet dire un de vos poèmes, Thierry Perret-Marty, un poème qui est inclus dans l'anthologie « Le corps du poème » rassemblée par la poète Marilyn Bertoncini.
Y sommes-nous, à quai, pétris comme soutenus au souffle, que nous, corps entier et seul, le dit souffle que droit devant la pluie morcelle. Ne reste que feuilles au sol, élus, leurs points de lumière. Serions-nous redevables de longue date? Serions-nous matière à vivre, possibles étoiles dans l'observable? Eux, flambeaux amenuisés, tremblant le crépuscule. Nous, ciel à boire, conspirant dans le resserrement entier et triant les atomes jusqu'à la source de l'oubli, d'un temps entier qui n'est pas, au chevet de ce qu'il reste du monde. Nous, debout dans les yeux, sans raison apparente, intacte, touchant du doigt le cadran des choses, le savions-nous? Nous encore à l'instant flou de la raison, sur le lieu même du contenu d'aimer. Collier au cou, j'existe, à rebrousse soie, corps défiant, épargné de tout feu buissonnier de leur bouche sourde. Je n'attends, n'entends rien. Dans la mire et l'œil du guetteur au bord des quatre vérités, soumis à la question, regain insurmontable, dissous, deux fois promis à l'ennemi. C'était demain, plus jamais hier, les êtres chers, confins anodins, sans que nul n'y ait cru, Aléa n'ayant jamais songé à bousculer l'univers, comme un état de grâce, de guingois, as-tu à toi, qui vibre à l'insu.
C'était la voix de Jean-Marc Barillet qui lisait un poème de mon invité Thierry Perret-Marty. Et si j'ai choisi la voix de Jean-Marc Barillet, c'est parce qu'il fait partie de vos amis. C'est un poète qui vit dans les montagnes de l'Hérault, en Ardèche. Il se consacre à l'écriture, au dessin et à la photographie. Il anime un atelier d'écriture mensuel, la table d'écriture, et il co-anime une émission de radio, Les Arpenteurs Poétiques, sur Radio Pays d'Hérault. Voilà pour Jean-Marc Barillet, et on revient à Thierry Perret-Marty. Nous nous acheminons vers la fin de l'émission, Thierry. Peut-être pourriez-vous nous lire encore un poème. Par exemple, celui-ci. Et celui-ci parce que vous m'avez dit hors antenne que vous aimiez bien le grain de beauté. Et donc, c'est un poème extrait du livre intitulé « Un jour plus loin dans le jour », un livre dont nous avons parlé tout à l'heure.
Peut-être un grain de beauté dans le pli du drap, peut-être, est écrit et s'efface. Elle dit qu'il ne pleut pas, tapotis des gouttes derrière la vitre.
Merci Thierry. Voilà pour le dernier poème, donc, lu par son auteur, mon invité, Thierry Perret-Marty, avec qui le temps passe très vite et il va falloir bientôt rendre l'antenne. Alors Thierry, je vais vous poser une dernière question. Est-ce que vous avez des projets, des publications à venir ? Est-ce que vous donnez des lectures publiques de vos textes quand vous êtes en France ? Est-ce que vous travaillez à des récitals poétiques, avec des musiciens par exemple, puisque vous connaissez tout un réseau de musiciens ?
Non, des récitals, j'en donne pas. Je travaille pas avec des musiciens. J'aimerais, pourquoi pas ? J'aimerais surtout quelqu'un pour lire mes textes, parce que comme on s'en est aperçu, je ne sais pas lire. Je suis pas mal à l'aise à lire, c'est pas ça, mais je suis persuadé aussi que certains auteurs ne devraient pas forcément lire leurs textes, alors qu'on on voit pas forcément les choses comme ça, mais vous savez, à une époque, dans le milieu des années 80, quand j'étais à Paris, je travaillais avec une actrice, et qui lisait, c'était pratique, parce qu'elle lisait des textes pour moi, d'une part, mais surtout, elle donnait une dimension à mes textes que j'ignorais moi-même. En les écoutant, ça, je me disais, mais c'est moi qui écris ça, finalement, je ne voulais pas le croire. Je comprenais mon écriture via cette interprétation. C'était vraiment une expérience très importante et surtout bizarre. Cela dit, bon, du point de vue publication, il y aura normalement l'année prochaine un livre qui va sortir au Mexique. C'est une traduction de Terlingua et de deux autres recueils. Ça s'appelle « L'autre versant de soi », je n'ai plus le titre en espagnol. Donc c'est une traduction faite par Philippe Choron pour les presses de l'université de Veracruz. Ça s'appelle Universidad Veracruzana. Et ça devrait sortir normalement au mois de mai l'année prochaine. Pour ce qui est de textes en français, j'ai deux manuscrits qui sont finis depuis... Enfin, tout ce que j'ai en fait écrit depuis 4 ans n'est pas publié. Donc, c'est en attente.
Mais en attente proposée à des éditeurs ?
Ah oui.
Donc, sous examen du comité de lecture. Eh bien, le temps imparti à cette émission est épuisé. Il me reste donc à vous remercier 1000 fois puissance 1000, Thierry Marty. Alors, en mon nom, bien sûr, mais au nom aussi des éditeurs pour cet entretien, pour vos réponses. Alors, on l'a compris, plein de franchise, d'authenticité. Et pour l'effort de justesse que vous avez aussi montré. C'était D'assonances en dissonances. Je vous retrouverai le mois prochain avec un nouvel invité qui, à son tour, nous plongera dans un univers poétique particulier. Et d'ici là, chers auditeurs, portez-vous bien. Au revoir.